Bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère. Cette émission est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, c'est Palestine 13 et BDS France Marseille qui animent l'émission. Donc, je suis avec Bernard.
Bonjour. Bonsoir, Bernard. Jean-Yves.
Et je suis Jean-Yves. Donc, Sidi est aux manettes. Merci à lui. Voilà. Donc, vous pouvez avoir des renseignements sur toutes les activités que l'on mène en lien avec la Palestine, même si en ce moment, les activités sont un peu réduites. Donc, vous pouvez consulter le site internet de Palestine 13, www.assopalestine13.org. Vous pouvez consulter les pages Facebook de BDS France Marseille et Palestine 13. Et sinon, vous pouvez aussi nous envoyer un mail à asso.palestine13@gmail.com. Donc aujourd'hui, nous faisons avec Bernard l'émission que nous avons intitulée Revue de presse, puisqu'en fait, on décortique un peu la presse tout le long du mois et on fait un compte-rendu que vous pourrez trouver sous la forme d'un fichier PDF sur le site de Palestine 13. Voilà. Donc, on va commencer par un article donc, qui a été trouvé sur le site proche-moyen-orient.ch. Des choses très intéressantes sur ce site suisse. Les Ouïghours, c'est tellement mieux que les Palestiniens. Donc Bernard,
oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les peuples qui sont martyrisés, on peut le dire comme ça, doivent en plus de leur souffrance servir les intérêts géopolitiques des uns ou des autres. Mais si par malheur, comme pour les Palestiniens, la géopolitique n'existe plus, c'est la catastrophe. Les médias se désintéressent de ce qui ne fera pas le buzz. Les Ouïghours ou les Rohingyas, des musulmans décimés par des dictatures, Chine et Birmanie, font ou peuvent faire leur entrée dans les médias. Mais en Palestine, il y a aussi des musulmans. Alors pourquoi les médias restent-ils muets? Nous ne le savons que trop, parce que l'État qui tente, sans y parvenir, de les mater, serait une démocratie.
Ah, je m'étrangle.
Là, on s'étrangle, exactement. On a envie de taper sur le premier journaliste qui aurait circulé en Palestine et n'y aurait rien vu. Israël, une démocratie ? La CPI va statuer sur bordure protectrice, opération de guerre de bombardement lancée sur Gaza en 2014, 2200 morts à Gaza, dont 1500 civils. Mais là où cette affaire se corse, comment faire pour différencier les civils et les militaires dans un pays qui n'a pas d'armée régulière ? Ah oui, c'est ça, suis-je vraiment bête? J'avais oublié. Palestiniens, tous terroristes. Et voilà, l'affaire est bouclée. Voilà.
Donc, cette très bonne introduction qui parle de la presse et de nos médias. Et on parle aussi des Ouïghours ailleurs sur France Culture. Donc, sur France Culture, un article « Comprendre la répression des Ouïghours par la Chine en quatre points clés ». En fait, le journaliste explique qu'il y a quand même des problèmes. Je ne sais plus, me souviens plus le nom de la région où se trouvent les Ouïghours. Et donc, il dit effectivement, il y a des détentions massives, des disparitions, travail forcé, stérilisation forcée, destruction du patrimoine, etc. Et Le Drian a dit « Toutes ces pratiques sont inacceptables. Nous les condamnons avec beaucoup de fermeté. » Par contre, bon, il condamne, mais il se contente de condamner, un peu comme on fait, un peu plus quand même, avec Israël.
C'est vrai, mais les médias emboîtent le pas quand même, voilà. En disant « trop c'est trop, regardez,
on en parle ».
Alors que pour la Palestine, on sait que dès qu'on parle de la Palestine en France, le CRIF monte au créneau en disant « il y a de l'antisémitisme sur telle ou telle radio » parce qu'il parle des Palestiniens, et parler des Palestiniens, rien que ça, hein, voilà. Maintenant.
Ils ont oublié de dire que c'était des terroristes.
Voilà.
En gros.
Pas dit que c'était des terroristes. Ils parlent des Palestiniens, ils oublient terroristes. C'est pas bien.
Mais quand on regarde les sites d'informations sionistes, qu'ils soient en France, bon, je lis pas la presse étrangère parce que je suis très, très nul en langue, mais en France, il y a des sites sionistes, en Israël aussi. Et quand on les lit, il est impossible de voir le mot musulman ou arabe sans qu'il y ait de suite après terroriste. C'est vraiment flagrant. On se demande mais comment ils font pour ne pas oublier. Juste pour montrer aussi que la presse, eh bien, il faut faire attention avant de lui faire confiance aveuglément. Il vaut mieux s'informer à différentes sources. J'ai aussi trouvé sur Russia Today, dans la rubrique Opinion, un article, La cause ouïghour, coqueluche de l'Occident, par Bruno Guigue. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc Bruno Guigue, quand même, alors on va donner ses titres, ancien haut fonctionnaire, chercheur en philosophie politique, analyste politique, ancien élève de l'école normale supérieure d'Ulm et de l'école nationale d'administration. Il est titulaire d'un master de philosophie et d'un master de géopolitique. Je suis d'accord que ce curriculum vitae n'en fait pas obligatoirement quelqu'un qui dit toujours la vérité. Mais, a priori, il connaît quand même le pays. Et donc, il dit, parmi d'autres choses, lisez son article, « Si les allégations de la presse occidentale sont exactes, la population ouïghour, estimée à 10 millions de personnes, aurait donc subi un monstrueux coup de filet. » Pour interner 1 million de personnes, en effet, il faudrait capturer pratiquement la moitié de la population adulte masculine de cette malheureuse ethnie. Curieusement, aucun témoignage ne mentionne cette disparition massive dans les rues d'Urumqi, de Kashgar et des autres cités de la province autonome. Outre cette invraisemblance factuelle, le procès fait à Pékin souffre aussi de la partialité et de l'unilatéralité des sources d'informations mentionnées. Donc voilà, on retombe dans le même. Il dénonce en fait le fait que...
La récupération électorale.
Voilà,
pour
que les journalistes
Trump
suivent aveuglément ce que sûr. Dit. Ouais. Alors peut-être il a tort, mais peut-être il a raison aussi. Donc voilà, toujours faire attention dans la presse quand on la lit.
Pour les Rohingyas, c'est exactement la même chose. Sauf qu'eux ont été foutus dehors par des groupes armés dirigés par des bouddhistes. Mais ils ont été accueillis par un pays qui est un des plus pauvres du monde, qui est le Bangladesh. Donc il y a quand même un énorme problème par rapport à des nuances. C'est-à-dire que des nuances qui sont atroces, hein, c'est pas des nuances dans le confort. Mais la Chine réprime entre ses murs. Alors que la Birmanie les oblige à fuir, parce que dans le film de Barbet Schroeder sur cette question, il y avait des passages épouvantablement difficiles à regarder, parce qu'on voyait de loin, heureusement, qu'il les tuait, il faisait des bûchers, il mettait les corps les uns sur les autres, il mettait le feu. Donc il brûlait leur mosquée et leur maison qui étaient toutes en bois. Et après, il cramait les personnes qu'ils avaient attrapées. Donc, ça a fait un peu de buzz parce que ça se passe dans le pays où la prix Nobel de la paix est devenue présidente et où elle donne raison à l'armée qui se défend. Toujours le même principe, l'armée a le droit de ceci, l'armée a le droit de cela. Mais les pauvres Rohingyas, ils sont allés gonfler un pays qui est un des plus pauvres du monde. Donc, évidemment, il n'y a pas de solution. à peine solution médiatique, parce qu'on en parle moins que des Ouïghours, parce qu'il n'y a pas le même enjeu entre les États-Unis et la Chine. Là, il n'y a pas d'enjeu entre la Birmanie et d'autres, d'autres pays. Donc, on en parle moins. Voilà, c'est...
Et on en, si on, et en, revient,
on en revient toujours au même truc, c'est que s'il y a un enjeu, ne serait-ce que médiatique, parce que derrière, il y a un enjeu politique,
ou électoral,
avec des guillemets, parce que là, l'enjeu est purement électoral. Mmh. Et voilà, donc les Palestiniens sont vraiment au fond du trou par rapport à ça.
Ah oui, parce que Trump a besoin d'Israël et de Netanyahou. Enfin, c'est
oui,
réciproque
mais...
aussi pour être réélu, puisque en fait il est soutenu. Aujourd'hui, il y a des soutiens qui le lâchent parce que il avance pas sur la question de l'annexion aussi.
Oui.
Donc quelque part, il a besoin de Netanyahou comme Netanyahou a besoin de lui. Ils se tiennent par la barbichette. Quoi. Donc voilà. Alors juste une petite. Avant de passer à la suite. Donc, j'ai trouvé sur le site de France Info une petite intervention d'un journaliste, petite, qui dure une minute et demie, là, vraiment très, très rapide, en fait. Il fait le point sur l'annexion. Ça se passait le 1er juillet, le jour où Netanyahou devait annoncer l'annexion. Et le journaliste, donc, il explique que les avantages pour Israël de la vallée du Jourdain. Oui, c'est un pays, c'est un endroit où il y a plein de ressources. Il y a la mer Morte, il y a le Jourdain qui coule. Il y a donc possibilité d'irriguer des surfaces qui sont cultivées, etc. Donc, il dit, la conclusion, c'est Israël a vraiment besoin de cette vallée du Jourdain. Mais à aucun moment, il dit que c'est une région qui a été volée aux Palestiniens.
Et voler, là, il n'y a pas besoin de guillemets, parce
non,
que c'est
voilà.
Voler pour de vrai.
Voler.
Voilà.
Ils ont pris, ils les ont foutus dehors, enfin, le peu qu'il y avait. Mais franchement, quand on écoute ça, on se dit comment sur une chaîne française, donc importante
oui,
quand
mais...
même, comment on peut arriver à parler de cette façon. Enfin, c'est incroyable.
Voilà. Et de même pas comprendre que, comme tous les bons colonisateurs, ils les virent et après ils les embauchent pour venir travailler sur les terres qui appartiennent aux Palestiniens. Ils en font les salariés de leur plantation.
Esclaves plutôt, parce qu'ils ne sont pas payés comme des vrais salariés.
Bon, alors en plus, esclaves.
Voilà. Donc... on va faire une petite pause musicale avec un parfum de gitane qui est interprété par les jeunes musiciens du conservatoire Edouard Saïd de Gaza. C'est le conservatoire qui a été créé par, ça y est, j'ai oublié son nom, le gars qui a créé l'association Al-Kamanjati. On écoute ces jeunes.
Mais un Palestinien.
C'est un Palestinien, oui.
Thank you.
Donc, sur le site de francepalestine.org, on a trouvé aussi un hommage à Gisèle Halimi, donc engagée pour les droits du peuple palestinien. Bernard va nous en parler. Mais en fait, c'était une militante anticolonialiste. Donc, et elle a milité aussi pour la cause des femmes. Mais concernant le peuple palestinien, donc Bernard.
Oui, on peut considérer qu'avec Gisèle Halimi disparaît une des plus grandes figures de la défense des droits humains. Née en Tunisie, dans une famille juive, Gisèle Halimi a très tôt fait valoir ses convictions anticolonialistes. Avocate de militants du FLN, dont elle a dénoncé la torture par l'armée française, elle a également participé sous la présidence de Jean-Paul Sartre au tribunal Russell sur le Vietnam. Connue et saluée pour son combat indéfectible auprès des femmes, et particulièrement le droit à l'avortement, et pour que les viols soient enfin pris en compte comme étant des crimes par la loi française. Elle restera longtemps dans notre mémoire collective, ajoute la FPS. Militante engagée pour les droits de l'homme et pour les droits des peuples, Gisèle Halimi s'est toujours déterminée avec force pour les droits du peuple palestinien. Membre du collectif d'avocats qui a défendu Marwan Barghouti, grand dirigeant palestinien arrêté en 2001, jugé en 2004 par un tribunal de l'occupation israélienne et toujours emprisonné, elle a su éluer en lui un homme de paix, un homme de négociation, un universitaire, un docteur en sciences politiques, un interlocuteur essentiel par sa capacité à unir le peuple palestinien. Une chance que les gouvernements israéliens successifs n'ont toujours pas voulu saisir. Elle a également été membre du comité de parrainage du tribunal Russell pour la Palestine en 2009. Ce tribunal d'opinion s'est notamment prononcé sur le crime d'apartheid et sur celui de sociocide commis par l'État d'Israël contre le peuple palestinien. Avant de tenir une session spéciale en septembre 2014, au lendemain de l'offensive israélienne contre la population palestinienne de Gaza, au cours de laquelle il a conclu que cette opération était constitutive d'incitation au génocide et de crimes contre l'humanité. Lors de cette offensive, Gisèle Halimi a déclaré au journal L'Humanité « Un peuple aux mains nues, le peuple palestinien, est en train de se faire massacrer ». Une armée le tient en otage. Pourquoi ? Quelle cause défend ce peuple et que lui oppose-t-on ? J'affirme que cette cause est juste et sera reconnue comme telle dans l'histoire. Aujourd'hui, règne un silence complice. En France, pays des droits de l'homme, et dans tout un Occident américanisé. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me résigner. Malgré le désert estival, je veux crier fort pour ces voix qui se sont tues et celles qu'on ne veut pas entendre. L'histoire jugera, mais n'effacera pas le saccage. Saccage des vies, saccage d'un peuple, saccage des innocents. Le monde n'a-t-il pas espéré que la Shoah marquerait la fin définitive de la barbarie ?
Merci Bernard pour cet hommage. Donc, on en est toujours au même point, hein, depuis 2009, 2014, etc. Et par contre, donc, y a des gens qui font preuve d'optimisme, ce qui nous fait du bien, parce que des fois, on a peut-être tendance un peu à se décourager. Et en particulier, Sylvain Sipel, dans Middle East Eye, fait une interview, et l'interview est intitulée « Malgré leur énorme supériorité », il parle de la supériorité militaire, bien sûr, « les Israéliens ne peuvent pas gagner ». En fait, il a écrit un livre, donc, récemment, dans lequel il interroge l'Israël contemporain entre ethnicisme, culte de la force et loi liberticide. Et donc, il utilise au début de son livre une expression assez particulière. Hein. Il dit que Israël urine du haut du plongeoir. Pour bien montrer qu'en fait, ils se cachent de rien, ils font ce qu'ils veulent, le droit international, la réprobation internationale, ils s'en foutent. Alors, ils s'en foutent peut-être pas tant que ça, puisqu'on parlera aussi peut-être, si on a le temps, de BDS, de la CPI, etc. Et BDS contre lequel ils luttent. Mais voilà, donc Sylvain Sipel a fait ça. Donc il est interrogé par un journaliste, donc de Middle East High, et qui dit « Israël actuel cristallise-t-il l'aboutissement du sionisme ou est-ce que c'est une rupture ?»
Alors certes, ils ont en commun l'ethnicisme, les Juifs d'abord. Ceux-ci rêvent du jour où ils pourront vivre dans un entre-soi juif. Mais pour y aboutir, il faudrait un chaos régional de grande ampleur qui permettrait à Israël de procéder à une nouvelle expulsion. Aujourd'hui, cela paraît aussi inenvisageable qu'une fin de l'occupation israélienne. Les Palestiniens ont tiré les leçons de leurs erreurs passées. Ils ne partiront pas. Et ils sont au creux de la vague. Je pense qu'une nouvelle génération viendra renouveler la lutte nationale palestinienne. Il est l'état de ceux qui sont juifs, c'est là le fondement de l'ethnicisme, la loi du sang et de la naissance. Oui, donc depuis cette histoire de loi du peuple juif, évidemment, tout s'est resserré autour de cette notion qui serait celle, comme il le dit là, du droit du sang. Enfin, qui est né juif en Palestine ou émigré, mais qui était juif, est considéré comme étant légitime. Tous les autres. Ouais. Oui, mais ça pose quand même un gros problème parce que...
Ce n'est pas tout à fait la loi du sang, parce que le peuple du juif au niveau sang,
vrai,
hérédité, n'existe pas, hein, puisque la plupart des juifs en Europe, etc., ce sont quand même des gens qui ont été convertis à une certaine époque.
Oui.
Shlomo Sand le montre bien dans son bouquin.
Mais ce qu'Elias Sambar, lui, redoute, c'est une deuxième Nakba, mais moins bruyante et moins ravageuse que la première. Mais que, petit à petit, les Palestiniens soient de nouveau poussés dehors.
Ce courage. Et...
Voilà, ouais.
Oui, quand parce on détruit que... leur maison, on détruit...
Parce que, là, au fond, la colonie de remplacement, c'est ça. Hein. C'est pas de... Comme il le dit très justement, quand les Américains sont arrivés sur les lieux, il y avait 400 tribus... indiennes, ils auraient très bien pu, comme ça se faisait ailleurs, les coloniser et les faire travailler pour eux. Ça aurait été horrible, mais ça aurait été un système colonial habituel. Or non, ils les ont disséminés et pire, ont fait venir des Noirs d'Afrique comme esclaves et pour créer l'esclavage sur leur terrain.
Donc, Sylvain Sipel, Middle East High, demande de vous montrer comment la vie entière des Palestiniens est accablée par l'occupation. Mais Israël est-il, selon le mot de Maxime Rodinson, un fait colonial ? Est-ce que Israël, c'est un fait colonial ?
Et oui, c'est un fait colonial par rapport à ce qu'on vient d'évoquer d'ailleurs. Parce qu'il le dit, il dit très bien, il y a trois colonialismes qui ont cet aspect. C'est le colonialisme américain, le colonialisme australien et le colonialisme israélien. C'est-à-dire on prend les gens qui sont là...
Et on les fout dehors.
On les fout dehors.
Ou on les tue.
Ou on les tue. Mais il dit les autres colonialismes, que ce soit le colonialisme britannique en Inde, là, ils auraient eu quand même beaucoup de travail, ou le français en Algérie, hein, ils ont occupé, ils ont enrôlé, ils ont fait travailler...
Mais, exploiter les ressources du pays.
Du pays, capter évidemment les ressources et les bras. Mais l'idée n'a jamais été celle du remplacement. Alors que là, on a quand même une énorme correspondance entre les États-Unis et Israël qui se retrouvent vraiment main dans la main par rapport à une conception de l'idée coloniale.
Et donc Middle East High se demande si la figure de l'ennemi palestinien ou arabe est la figure nécessaire qui cimente la société israélienne. En fait, Sylvain Sipel dit que la société israélienne est terriblement divisée. Le racisme, donc il y a du racisme partout, hein, le racisme intérieur des Juifs européens à l'égard des Juifs orientaux, aujourd'hui, il est en voie de disparition. Pas encore tout à fait. le clivage religieux-laïque demeure très puissant. Et des deux côtés, certains sont à gauche, d'autres à droite. Exemple, l'ancien ministre israélien de la Défense et actuel député, Avigdor Lieberman, qui se situe à l'extrême droite.
Oui, mais qui lui est laïque.
Qui lui est laïque.
Oui, mais ça n'empêche pas d'être à l'extrême droite.
Ah oui,
voilà. Alors donc après, il y a les extrémistes religieux qui sont aussi de la partie.
À l'extrême droite. Ah. Et donc, il demande, donc Midalissa, il demande, notez-vous un fossé entre les Juifs américains et Israël.
Et oui, donc on constate quand même, et Sylvain Sipel constate qu'une minorité de Juifs américains soutient Israël de façon indéfectible. Mais il se pourrait que les Juifs américains développent leur propre judaïsme et qu'ils abandonnent peu à peu leur soutien à Israël. Mais Israël en a-t-il encore besoin ? Les Juifs américains sont 6,5 millions et sont plutôt marqués à gauche. Les évangélistes sont 60 millions et ils sont d'extrême droite et parfois antisémites. On dit qu'en préférant aux Juifs l'alliance avec les évangélistes, Netanyahou a fait un calcul simple. Celui de la force et du nombre.
Donc, sachant que l'évangéliste dont tu parles, ce n'est pas des juifs.
Ce n'est pas des juifs, non.
Voilà, ils sont chrétiens.
C'est ceux qui veulent que le Messie soit attendu et revienne.
Pour ça, il faut que tous les juifs retournent en Israël.
Oui, là.
En Palestine.
Alors, mais il dit au-delà, c'est aussi parce qu'il s'entend avec eux, avec leurs idées de suprémacisme raciste, comme il s'entend bien avec les nationalistes tels que Narendra Modi ou Viktor Orban, lequel est pourtant entouré d'antisémites. Ce fossé entre judaïsme américain et judaïsme israélien, dit Sylvain Sipel, ira croissant. Mais c'est ça qui est quand même pour moi nouveau et un peu difficile à comprendre, c'est que Netanyahou est quand même de la pire espèce puisqu'il est capable de s'allier à des gens qui le soutiennent pour le soutenir, même si dans leur rang, il y a des antisémites. C'est-à-dire que l'antisémitisme est vraiment une valeur fluctuante qui s'applique dès qu'on met en cause l'État d'Israël, mais pas du tout une cause analytique sur le terrain pour voir qui est et qui n'est pas.
C'est quand même pas très nouveau, parce que Israël, à l'époque, avant qu'il existe, pendant la guerre et avant la dernière grande guerre, finalement, ils ont utilisé l'antisémitisme de la population européenne pour faire venir les Juifs en Israël et éviter qu'ils aillent aux États-Unis, qui étaient fermés à l'époque, etc. Donc l'antisémitisme a toujours été utilisé par Israël. On le voit bien encore aujourd'hui quand Israël appuie les pays qui veulent assimiler antisionisme et antisémitisme. On utilise l'antisémitisme pour dénigrer les gens qui sont antisionistes et qui, en fait, soutiennent les antisémites, soutiennent en plus l'État d'Israël, parce que effectivement, c'est un État qui a une aura, c'est sécuritaire, etc. C'est la start-up nation dont Israël veut se parer des atours et qui, en fait, donc ils ont besoin des antisémites pour exister aussi, ces gens-là. Est-ce que tu avais d'autres choses à
non,
dire sur...
Non, au fond, enfin, Sipel, il termine, parce que la question de la France est importante quand même dans cette affaire. Oui. Et on voit que, autant on peut se dire qu'il y a des pays d'Europe ou des pays par le monde qui comprennent à peu près ce qui est en train de se passer, en France, à cause de simplement le CRIF, les choses n'en sont pas là. Le CRIF, dit Sylvain Sipel, joue un rôle important dans ces questions. Il installe un rapport à Israël qui rappelle le rapport qu'avaient les communistes à l'URSS. Oui, il y a de ça. C'est l'ambassadeur d'Israël qui fixe la ligne du CRIF. Mais pourquoi n'entend-on pas de voix pour dire que cela suffit ? C'est énigmatique. On peut passer que cela viendra. L'autre question est combien de Juifs français le CRIF représente-t-il ? Certains disent que c'est de l'ordre de 60 000 personnes. Donc 10% des Juifs français. Je ne le pense pas, dit-il. Le CRIF ne se résume pas à ses seuls membres. Je dirais qu'il représente la moitié des Juifs de France. Voilà.
Mais par contre, il ajoute que les autres 50% sont inaudibles et ce silence change tout. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne du CRIF, finalement, ils se taisent. Et donc on a le CRIF à une route ouverte pour avancer ses pions, quoi. Bon.
Oui, voilà. C'est ça. C'est que le CRIF arrive à imposer le silence. Mm. Et le CRIF arrive, depuis Sarkozy, à faire de son repas annuel un événement politique national que personne ne remet en cause. Voilà.
Où tous les antisémites vont.
Mitterrand a toujours refusé d'y aller. Chirac, je crois... peut-être fait un tour, mais n'a jamais, s'est jamais installé avec une fourchette autour de la table. Mmh. Voilà. Donc on est vraiment sous cette pression. Et moi, personnellement, je demande depuis longtemps la séparation du CRIF et de l'État.
On est dans un État laïque. Alors, puisqu'on parle du CRIF et des Juifs en France, donc on va passer une
séquence humoristique.
Voilà.
Issue de l'émission humoristique de France Inter de 17h, quand ce n'est pas les vacances, qui s'intitule « Par Jupiter » avec Charline Van den Ecker et Alex Vizorek. Mais là, on va écouter le moment Meurice, qui est le moment de Guillaume Meurice.
Écoutez, comme c'est un petit peu la saison des polémiques en ce moment, hein, il y a Tex, Griezmann, la crinière de Lyon de Juliette Arnault. On a besoin d'apaisement, donc chronique apaisante. Aujourd'hui, ça va faire du bien. On va parler du conflit israélo-palestinien. On est bien, hein, on respire pas mal. Alors, c'est un conflit un petit peu spécial, parce que dès que tu dis un truc, t'es soit djihadiste, soit juif extrémiste. Alors, moi, je tiens à préciser quand même que je suis ni l'un ni l'autre. Déjà, parce que j'aime bien mon prépuce. Voilà, je le garde. Ouais, c'est vrai que j'ai un beau prépuce.
L'Insta-Live explose.
Je vois pas pourquoi je le couperais, voilà, comme les deux, il faut. Et puis, c'est vrai que je mange pas de cochon, mais parce que je suis végétarien. Voilà, rien à voir avec la crainte de l'enfer. En plus, je travaille sur France Inter, donc je suis forcé d'écouter la playlist. Donc, l'enfer, j'ai un petit peu l'habitude. Alors, l'actu, c'est que Donald Trump a décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc, pour résumer, c'est comme si tu avais une brûlure au quatrième degré et que le mec te fait un pansement au piment d'Espelette. Ah, voilà. C'est de la géopolitique culinaire, mais c'est pour résumer. L'ONU, donc la communauté internationale, a tenu à faire voter une résolution contre cette décision de Trump et les États-Unis ont été obligés de mettre leur veto. Ça, c'était avant-hier. Et il y a un député français qui est très remonté contre ça. C'est Meir Habib, député des Français de l'étranger, donc ceux d'Israël. Il envoie des textos à Macron pour lui dire de faire comme les États-Unis, et je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale pour lui parler de la situation.
Je crois que c'est tout à l'honneur du gouvernement américain, en plus, qui acte une logique historique.
Elle va à l'encontre de tous les peuples du monde, alors.
Mais les peuples du monde n'ont pas une position morale et de vérité historique.
Bam, on commence fort, prenez bien ça dans la gueule, les peuples du monde, vous ne connaissez rien en vérité historique ni en morale. Hein. La morale, c'est le truc de Donald Trump, et ça n'a échappé à personne. Il n'y a qu'à remonter son fil d'actu Twitter, hein. Il a un bac plus 8 en morale. Option élégance et déontologie. Alors, pour Meyer, la vérité historique, c'est quoi?
Où est né Jésus? Promenez-vous à Jérusalem, regardez... Où a marché Jésus il y a maintenant 2018 ans de cela. La réalité historique, elle est là.
Oui, mais est-ce qu'on peut fonder une géopolitique sur un fait religieux?
La question, c'est pas fait religieux.
Bon, ça ressemble quand même à un fait religieux. On parle quand même d'un mec qui a monté une secte avec 4 tours de magie. Hein. C'est-à-dire que Gérard Majax, il aurait pu être un peu plus malin. Il y aurait des prières pour lui aujourd'hui. Bon, il serait accroché en slip dans les églises. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Alors, continuons sur la Bible.
Attendez, la Bible, c'est historiquement, c'est une preuve historique.
Ah, la Bible, est-ce qu'on est sûr que c'est une preuve historique?
Enfin. Je ne sais pas, il y a un livre qui est le plus vieux livre du monde.
Donc, est-ce qu'on peut vraiment baser une politique sur un livre saint?
Mais ça, c'est vous qui le dites.
Non, moi, je pose la question, parce qu'il faut qu'on se mette tous d'accord sur le bouquin de référence. C'est ça qui est important. Moi, par exemple, c'est le recueil de chroniques d'Alex Vizorek. Alors, c'est essentiellement de la géopolitique du livre virgule. Si vous voulez, la Terre promise, c'est la Bretagne. Donc, ça change quand même pas mal de trucs. Donc, l'idée, c'est qu'on se mette d'accord sur une sorte de consensus, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Jérusalem, c'est la capitale de la Palestine et d'Israël, et puis c'est marre?
Je ne comprends pas qu'on dise que Jérusalem est la capitale palestinienne parce que c'est un mensonge historique.
Elle peut être les deux.
Elle ne peut pas, elle ne sera jamais les deux.
Mais ça va à l'encontre du droit international, c'est ça qui choque beaucoup de gens.
Il n'y a pas de droit international. Quand le droit international...
Mais c'est l'ONU.
Mais l'ONU, est-ce qu'il est normal que l'ONU ait fait 20 résolutions contre Israël et 6 contre le reste du monde?
Parce que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit international, précisément. Ça, c'est intéressant, parce qu'on est vraiment dans le cas d'un mec qui roule tous les jours bourré à contresens à 200 km sur une route de campagne et qui dit « Mais attendez, j'ai toujours les flics au cul, c'est normal, ça ?» Ça, c'est vraiment de la vitessophobie. Hein. J'appelle la LICRA immédiatement. Alors qu'en fait, peut-être, ça s'appelle juste du droit international, non, Meyer?
Il n'y a pas de droit international qui dit « C'est quoi le droit international ?» Les votes de l'ONU, pour
par
moi,
exemple.
Pour moi, l'ONU est obsédée par l'État d'Israël. L'ONU a voté que le mur occidental s'appelait Al-Bura, qui était une mosquée. Est-ce que c'est ça le droit international? Je vous pose la question.
Par exemple, oui, ça peut.
Ben alors c'est faux. Alors Israël ne se soumet pas à ce droit-là.
Voilà, et c'est le problème en fait. Hein. C'est précisément ça. Hein. C'est le problème de l'automobiliste qui dit le code de la route, j'en ai rien à carrer, comme le gouvernement israélien du droit international. Alors je dis bien le gouvernement israélien parce qu'il y a heureusement beaucoup d'Israéliennes et d'Israéliens qui en ont marre de la situation, qui manifestent hein, d'ailleurs régulièrement, parce que techniquement Israël est une démocratie, n'est-ce pas Meyer?
C'est une démocratie, la seule et unique dans cette région du monde. Et en réalité,
quand elle viole les résolutions de l'ONU, est-ce que c'est quand même une démocratie?
Elle a une résolution hectorale que Jérusalem est sa capitale.
Quand elle va implanter des colonies alors qu'elle n'est pas...
C'est pas des colonies, est-ce qu'un juif... Quel est votre nom?
Guillaume Meurice.
Monsieur Meurice, est-ce qu'un juif peut être colon en Judée?
Oui, complètement. Mais pas parce qu'il est juif. Hein. Tu peux être inuit, chinois ou raélien, ça change rien. À partir du moment où tu décides de réparer la maison de ton voisin avec un bulldozer, c'est pas du Valéry d'Amido, c'est de la colonisation. Alors on conclut avec Meyer qui, après son élection, je vous rappelle, avec Rubon de remercier face caméra, le Tout-Puissant.
C'est une preuve d'humilité de remercier le Tout-Puissant. Vous savez, dans un élan, j'étais en famille. Et si j'avais à faire, je redirais exactement la même chose. Quand Neymar est arrivé au PSG, il a remercié le Tout-Puissant. Ça n'a choqué personne.
Parce que Neymar, il n'est pas député d'une République laïque.
Arrêtez de ringardiser tous les gens qui croient.
Bon, bah, vous n'avez pas besoin de moi. Il n'y a qu'à voir les rituels et les interdits qui peuplent les croyances monothéistes, hein, ne serait-ce que pour le droit des femmes. Mais bon, alors après, chacun croit ce qu'il veut. Moi, je crois bien qu'un jour, les humains arrêteront de se foutre sur la gueule pour des conneries de territoire ou de religion. Ça, c'est mon côté ringard.
Merci Guillaume Meurice, vive la République, vive la France.
Bon, voilà un petit moment d'humour franchement très bien trouvé qui montre que les arguments de Meyer Habib sont quand même volent très très bas.
Hein, oui, c'est la Bible, on sort la Bible voilà. Et on dit la Bible est un fait historique.
On a tout dit.
Et c'est notre cadastre, point barre.
Voilà. Bien, donc, en parlant de colonisation, donc... l'Union européenne a donné des consignes aux différents pays de l'Union européenne pour que l'étiquetage des produits des colonies se fasse de façon à informer au mieux les consommateurs de ce qu'ils achètent. Mais on constate que ça n'a pas été fait et il a fallu remettre une couche. Et par contre, tout le monde ne suit pas la règle. Donc, par exemple...
Alors cette fois, c'est aux Pays-Bas que ça se passe. Des inspecteurs du gouvernement néerlandais ont déclaré qu'ils infligeraient une amende à un magasin vendant du vin de la ville de Hébron, en Cisjordanie, et étiqueté comme étant fabriqué en Israël. L'avertissement est tombé lors d'une inspection, le 10 juillet dernier, du Centre des produits israéliens, une entreprise d'importation et de vente au détail dirigée par le groupe pro-israélien Christians for Israel. Dans un communiqué, le centre a rapporté que deux agents de l'autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation n'avaient confisqué aucun produit, mais avaient averti que le centre pourrait se voir infliger des amendes pour avoir enfreint des exigences d'étiquetage. Le centre a déclaré qu'il ne se conformerait pas à ces exigences. Voilà, donc on est un peu en Israël, là. C'est-à-dire qu'on trouve un magasin qui ne respecte pas les lois, les lois européennes ou les lois du pays où il se trouve, et il finit en disant « je déclare que je ne me conformerai pas à ces exigences ». Voilà, c'est incroyable. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas la suite parce que...
C'est uriner du haut du plongeoir.
Exactement. Mais comme il dit Sylvain Sipel, ceux avant, ils urinaient dans la piscine parce que ça se faisait, parce qu'on n'était pas pris. Mais un jour, ils ont décidé qu'il fallait faire pipi, uriner depuis le haut du plongeoir. Voilà. Et c'est le même principe, ça.
Et on trouve ça aussi, ce mépris pour les réglementations, les lois, etc., dans une intervention c'était le président du CRIF Midi-Pyrénées, voilà, à Toulouse. Donc il a tenu des propos diffamatoires et menaçants parce qu'il y avait eu un rassemblement unitaire à Toulouse contre le plan d'annexion avec le collectif Palestine vaincra. Donc il avait dit « Comment ça se fait qu'on autorise ça? Mais que fait le préfet? Que fait la police? Est-ce qu'ils attendent que je lâche la bride à mes co-religionnaires ?»«
À mes gros bras, oui. »«
À mes gros bras pour aller taper dans le tas. » En gros, pas dit tout à fait comme ça, mais franchement, ça revenait à ça.
Oui, Mais est-ce qu'il y a eu des
réactions ?
Des réactions officielles ?
Officielles, non. Ouais. Les seules réactions, elles ont eu lieu. Enfin, il y a eu des réactions. C'est des organisations qui ont dénoncé les propos du CRIF Midi-Pyrénées et qui soutiennent le collectif Palestine vaincra. Donc, c'est une condamnation qui regroupe des organisations de 21 pays, Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Bahreïn, Belgique, etc. Mais ce sont des organisations principalement de soutien au peuple palestinien. Et par contre, je n'ai pas vu passer de condamnation officielle par le préfet.
Mais je crois que là, comme souvent, il faut marquer avec vigueur les différences de traitement. Imaginons une association musulmane qui disent « on va venir faire le nettoyage si vous ne le faites pas ». Tu vois un peu ce que ça veut dire. Ouais. Donc le deux poids, deux mesures est évidemment épouvantable d'injustice, comme toujours, on est habitué. Mais je trouve qu'il n'y ait pas de réaction devant une telle proposition de provocation de la part du préfet du coin,
ben oui,
ou même des autorités municipales de Toulouse. C'est un pur scandale.
C'est une menace contre des gens.
Bien sûr.
Soi-disant que la manifestation, elle troublait la manifestation de Palestine vaincra, troublait l'ordre public, ce qui n'était pas vrai, puisque ça s'est passé dans le calme et tout. Et lui, il propose d'envoyer des nervis pour justement faire un trouble à l'ordre public et personne ne lui dit rien. Enfin, c'est scandaleux. Voilà où on en est aujourd'hui. En France.
Voilà le CRIF toulousain qui pratique les mêmes choses que le CRIF national.
Voilà.
Où on en est, exactement.
Exactement. Donc, ça, c'était les méthodes de voyous du CRIF. Comme il nous reste ? Il nous reste un quart d'heure. Bien. Donc, dans ISM France, tu as trouvé, Bernard, un article qui dit qu'Israël veut contrôler toute la Palestine avec aussi peu de Palestiniens que possible. Donc, effectivement, depuis le début, tu as parlé tout à l'heure de colonie de peuplement. Colonie de peuplement, ça veut dire qu'en fait, on s'installe à un endroit et les gens qui habitaient à cet endroit-là, on les met dehors. C'est ce qu'ont fait les sionistes depuis le début. Il y a eu la Nakba en 48-49, où les Palestiniens ont été mis dehors, ce qui a créé le problème des réfugiés. Et donc aujourd'hui, Israël se trouve confronté à un problème démographique.
Oui.
Dont tu viens de parler.
On peut dire que les gouvernements successifs en Israël ont créé, en Cisjordanie, par une série de lois et de politiques militaires, le cadre qui permet d'atteindre permettrait d'atteindre leurs objectifs. De plus, les Israéliens veulent non seulement avoir la terre, mais aussi la vider de sa population palestinienne, ajoute le communiqué indigène. Les Palestiniens doivent donc s'arrêter, réfléchir et concevoir une politique pour s'attaquer à ce défi. Depuis la fin du XIXe siècle, le mouvement sioniste a clairement dit que son objectif est de contrôler l'ensemble du territoire de la Palestine, du Jourdain à la Méditerranée. Ce vieux rêve sioniste est toujours vivant et imprègne la politique israélienne. Israël a construit sa stratégie de base en Palestine sur ce rêve. C'est pourquoi ses frontières sont encore indéfinies. Avant la création de l'État, le mouvement sioniste a utilisé diverses tactiques pour atteindre son objectif de contrôle de la Palestine. Les colonies juives, habitées par des immigrants juifs, ont conduit à l'expulsion des Palestiniens de leurs propres villes et villages. Ce fut toujours un mensonge pour les sionistes de prétendre que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Depuis 1967, qu'Israël occupe la bande de Gaza et la Cisjordanie, ils utilisent les mêmes tactiques. Il n'y avait pas de juifs en Cisjordanie en 1967, mais dans les années 80, il y en avait 100 000 dans les colonies illégales. Ce chiffre est passé de 365 000 en 2000, et aujourd'hui 665 000 colons juifs illégaux dans les territoires palestiniens occupés. Les autorités d'occupation israéliennes ne cachent pas leur intention de porter ce chiffre à 1 million dès que possible. Lors des négociations de Camp David en 1999, le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, a parlé d'annexer environ 9% des terres palestiniennes en Cisjordanie, dans le cadre d'un échange de terres. Lors des négociations de 2007-2008, son successeur, Ehud Olmert, a proposé d'annexer 12,1% des terres palestiniennes en échange de 5,8% des terres à l'intérieur d'Israël. L'actuel Premier ministre Netanyahou veut maintenant s'emparer de 30% de la Cisjordanie dans le cadre de, entre guillemets, l'accord du siècle de Donald Trump, dont on rappelle que c'est un accord qui a été tracté entre Netanyahou et Trump, et que quand on dit accord, il faut qu'il y ait la partie, la tierce partie qui soit aussi associée. Or, ça n'est pas le cas. Le contrôle de la terre palestinienne est l'une des tactiques les plus importantes utilisées pour réaliser le rêve sioniste du grand Israël dans toute la Palestine, quel que soit le parti auquel appartient le Premier ministre israélien. Ça, c'est important de le souligner, parce que ce n'est pas arrivé comme par hasard, parce que le Likoud est arrivé au pouvoir. L'occupation israélienne a cherché à désarmer les Palestiniens de Cisjordanie, à établir un contrôle de sécurité sur toute la zone et à empêcher toute résistance par la violence. Elle utilise différentes mesures punitives contre le peuple palestinien qui choisit de mener des actes de résistance légitimes. Ces mesures comprennent des exécutions extrajudiciaires, des emprisonnements et des démolitions de maisons. L'État sioniste a non seulement adopté une politique d'assassinat contre les fonctionnaires et les militants palestiniens, mais il a également tué des enfants âgés de 12 à 16 ans. Au fil des ans, des enfants et des adultes ont été abattus et laissés pour morts sous les yeux du monde entier. La résistance en est donc venue à signifier le martyr dans l'esprit des Palestiniens.
Donc voilà, en fait, Israël aujourd'hui cherche à obtenir le maximum de terres, mais le maximum de terres avec le moins de Palestiniens possible. C'est pour ça d'ailleurs que dans Netanyahou a dit, il est hors de question, une fois qu'on aura annexé les colonies et de Cisjordanie et la vallée du Jourdain, il est hors de question que l'on donne la nationalité israélienne, entre guillemets, parce que la nationalité israélienne, on ne sait pas trop ce que ça veut dire dans ce pays-là, aux Palestiniens qui habitent là. Donc ça veut dire qu'on va les chasser et on va les envoyer dans les bantoustans qui ont été créés, qui sont définis dans le plan Trump.
Alors à ce propos, puisque tu évoques la question d'un État qui deviendrait un État démocratique, où certains citoyens seraient privés de la nationalité de ce pays. J'ai quelques réserves, non pas sur la constitution de cet État, mais sur sa viabilité. Et j'en étais un petit florilège de langage, de formule et de situation organisé ou dit par des responsables israéliens. Par exemple, c'est extrait du bouquin de Sylvain Sipel, En 2019, dans la colonie de Carmel Shomron, un groupe de parents d'élèves a obtenu que le personnel arabe féminin de l'école qui travaillait exclusivement au ménage soit renvoyé. Simplement parce que c'était des femmes arabes et que l'espace qu'ils veulent occuper doit être un espace pur avec seulement des juifs. À la tribune de l'accès 7, l'ex, elle l'était à l'époque, Miri Regev, ministre de la Culture, lance, on m'a dit que c'était bien de commencer par un discours par une citation. Ça fait cultiver. Alors je vais en donner une. Et de hurler en anglais, cut the bullshit, arrêtez vos conneries. Une autre fois, elle lance à la députée arabe Hanine Zoabi, je vais te le dire en arabe pour que tu comprennes bien. Fous le camp à Gaza ou à Eli Ishai, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, avait déclaré lors d'une opération israélienne en 2012 « Nous devons ramener Gaza au Moyen-Âge, détruire toutes ses infrastructures, routes et eaux incluses ». Voilà. Donc voilà, quand on...
C'est au plus haut de l'État qu'on
retrouve... Au sommet
retrouve...
de l'État, les choses sont dites comme ça. On imagine que là, le ruissellement a lieu,
Et que tout le monde peut se valoir du même droit et s'en prendre à son voisin, à un groupe, et ce que ne se privent pas de faire les colons israéliens. Hein, tous les jours, il y a des tabassages et parfois des morts.
Bien sûr, on a vu encore dernièrement des colons qui ont brûlé des mosquées, qui ont brûlé des champs d'oliviers, etc., pour s'installer sur des terres. Mais donc, à partir du moment où le sommet de l'État va... imaginons qu'on arrive à le nettoyer de cette racaille, hein, parce qu'on ne peut pas utiliser vraiment d'autres mots, à ce moment-là, si l'État dit « ça, c'est interdit », ou « ces gens-là ont les mêmes droits que les autres », automatiquement, il va y avoir une évolution. Ça ne va pas se faire en un jour, évidemment.
Oui, mais comme c'est dès la maternelle que ça commence, le tous terroriste, c'est dès la maternelle. Oui. Hein. Donc comment faire pour arriver à ce que, en grandissant, en devenant adulte, on puisse... Alors, il y a évidemment quelques groupes en Israël, à Tel Aviv, des gens de gauche qui réfléchissent à ces questions et qui ne se laissent pas manœuvrer. Mais c'est toujours pareil. Quel est le pourcentage, tu comprends?
Alors, après, je ne sais pas exactement, hein, mais d'après tout ce que je lis, j'ai l'impression qu'il faut faire la distinction entre les colons qui sont installés en Cisjordanie et les gens qui habitent en Israël. Dans Paris Match, parce que Paris Match parle aussi du conflit israélien et palestinien. Et... il y a un article sur la presse en Israël. La presse en Israël, donc, il y en a deux. C'est la presse de gauche, Haaretz, qui tous les jours parle effectivement de... Il y a Gideon Levy en particulier, qui parle de l'atteinte faite à la dignité des Palestiniens, etc., qui raconte des anecdotes, entre guillemets, mais des anecdotes très représentatives de ce qui s'y passe. Et puis, il y a la presse de droite, alors qui tire... qui a des tirages extraordinaires par rapport à la population. Et en fait, le conflit, donc dans Paris Match, ils disent le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens est complètement absent des gros titres. En fait, on n'en parle pas. Et les médias ont participé à la lutte pour l'indépendance de l'État. Pourtant, le conflit qui oppose Israéliens et Palestiniens depuis plus de 70 ans est absent des gros titres. Exception faite lors des périodes d'affrontement ou lors des opérations militaires d'ampleur. Donc, il y a le créateur du site indépendant d'information, plus 972 magazines, 972 en référence aux chiffres qui se trouvent sur les... Aide-moi. les codes-barres. De tous les produits qui viennent d'Israël, et commence par 972. Hein. Donc, plus 972 magazines, le créateur du site dit « Le conflit semble être un problème externe à notre société, tant les médias se focalisent sur les problématiques du peuple juif dans la société juive. Le récit palestinien est absent des médias israéliens. Une règle non dite selon laquelle l'intérêt des Israéliens dans un futur à moyen terme réside dans le fait d'ignorer ce conflit. » Donc, en fait, les Israéliens, en Israël en tout cas, parlons pas des colons, hein, mais il y a quand même un désintérêt. À partir du moment où on arriverait à leur montrer que, effectivement, ils participent quand même, même s'ils s'en foutent, à la colonisation et à l'oppression des Palestiniens, il se peut qu'il y ait un changement. De toute façon, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, il y ait un changement. Cette situation ne pourra pas durer.
Non, mais... Pour parler le pire, pour évoquer le pire, l'historien Zev Sternel, qui est mort il y a un mois, il y a 6 mois, 8 mois, peut-être un an, quand il évoquait la situation créée par Netanyahou, il disait « ça me rappelle l'Allemagne de 1933 ». Tu te rends compte quand même. Donc ça veut dire qu'on est face à un système qui est prêt à tout, à nettoyer... entre guillemets, le pays pour rester seul sur cette terre.
Est-ce que vraiment, bon, aujourd'hui, des pays qui en ont envahi d'autres, il en reste plus beaucoup qui ont pu perdurer. En plus, là, il y a vraiment un déni, puisqu'il y a ce vol de terre, cette destruction de la société, destruction des maisons, destruction de la culture ou appropriation de la culture. L'autre jour, j'ai entendu aussi sur France Inter un éditorial, enfin, ou je ne sais pas, un petit entrefilé, où c'était France Info, qui parlait de la cuisine israélienne. C'est quoi la cuisine israélienne ? C'est de la cuisine palestinienne, quoi. Donc, oui, en fait, ils leur ont tout volé.
Le falafel israélien, quand ils font la publicité, ils pourraient dire que c'est les Palestiniens qui leur ont appris à le faire.
Voilà donc où on en est aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vrai que je voulais parler de cet article de Paris Match qui, effectivement, montre qu'en Israël, il y a de la propagande contre les Palestiniens. On voit beaucoup dans beaucoup de sites sionistes. Mais il y a aussi je m'en fous.
Attends, Jean-Yves, la désinformation, c'est une information. Si on retourne la chose, ne pas parler du problème dans la presse en Israël, ça revient à dire c'est la voix d'en haut et c'est les majorités silencieuses ont toujours tort.
C'est pas ça la désinformation. La désinformation, c'est de l'information biaisée.
Non,
l'absence d'information.
Non, mais c'est quand même une forme de désinformation puisque tu n'en parles pas. Ouais. Donc personne ne sait ce qui se passe, mais au premier mouvement où on dit attention, on est en danger, tout le monde serre les rangs. Parce que la majorité silencieuse est toujours derrière le chef, toujours. Ouais.
Donc, on a bientôt fini, là. En fait, aujourd'hui, un autre sujet très important, c'est l'annexion. On en a rapidement parlé. Annexion de la vallée du Jourdain, qui a été volée aux Palestiniens, et des colonies.
Et celle du Golan qui a eu lieu, il y a pas, personne n'a bougé.
Voilà, alors le Golan, c'est encore différent. On parle beaucoup du Liban ces jours-ci. Jusqu'à hier, c'était encore parce qu'il y avait des manifestations contre les hommes politiques corrompus, etc. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une catastrophe là-bas.
Il y avait une zone Céveso en plein milieu du port.
Voilà, c'était comme à Toulouse en 2000, là, où... Pour avoir vu ce qui se passait là-bas, franchement, c'est incroyable. Et donc, on parle du Liban, mais le Liban, Israël aussi, au Liban, donc revendique une petite portion qui dit, donc il dit que ça fait partie du Golan qu'il a déjà annexé.
C'était dans la Bible.
Voilà, c'était dans la Bible. Alors que finalement, les frontières du Liban, les frontières de la Syrie, elles ont quand même été tracées, même si c'est par des entreprises colonialistes, etc. Elles ont été tracées avant la création de l'État d'Israël. Donc, on constate que effectivement,
Israël désire d'être un pays dont les frontières sont indéfinies
s'étendre le plus possible. Voilà. Bien, donc on vous donne rendez-vous pour la revue de presse du mois d'août au début septembre. Et en attendant, donc, passez une bonne semaine, bonnes vacances si vous en prenez. À bientôt, merci à tout le monde.